Reconnais-tu ton vrai trésor? On va revenir aujourd'hui au livre de la Genèse, qu'on a visité deux fois depuis quelques années. On continue l'histoire des patriarches à partir d'aujourd'hui pour un bout de temps. Juste pour rappeler un peu le scénario, le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, il y a deux grandes parties dans ce livre-là. Il y a les premiers 11 chapitres, ça, on a vu ça il y a longtemps. On découvre Dieu le Créateur, et il crée le monde et l'univers, et il met les humains dedans, les premiers humains, Adam et Ève, qui sont en quelque sorte établis comme les gérants, les représentants de Dieu dans le monde, dans l'univers. Le problème, c'est qu'ils se rebellent contre Dieu et ils veulent définir leur propre compréhension du bien et du mal. Et puis, il y a une brisure qui se fait entre eux et Dieu. Et finalement, ça dégringole. Les 11 premiers chapitres, c'est la dégringolade dans le mal, dans la souffrance, dans la mort. C'est ça, l'univers de Dieu est endommagé. Mais la deuxième partie du livre de la Genèse, c'est Genèse 12 jusqu'à 50, ça commence avec Abraham, c'est que Dieu révèle un plan de sauvetage. Il n'abandonne pas les humains, parce qu'à la fin du chapitre 11, les choses ont l'air vraiment négatives, mais Dieu arrive avec un plan de sauvetage, de restauration de l'univers. C'est vraiment merveilleux. Il commence en choisissant un homme, Abraham. Il va réapprendre aux humains à vivre avec lui, mais il commence avec un homme et sa descendance pour former un peuple qui va vivre avec lui, qui va marcher avec Dieu. Et ça, c'est Genèse 12 à 50. On a déjà étudié la vie d'Abraham il y a quelque temps. Et là, on va continuer avec il y a le fils d'Abraham, Isaac, et puis après ça, les fils d'Isaac, et ainsi de suite. Finalement, il va y avoir 10 petits-fils d'Abraham, 12, pardon, les 12 tribus d'Israël qui viennent des 12 fils d'Abraham. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on y va avec Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Puis lui, il est marié à Rebecca. Peut-être que vous vous souvenez, on a parlé de leur mariage. Ça fait quand même un an et demi. Et on va parler de la naissance et de la jeunesse de leurs deux fils, Ésaü et Jacob, donc les petits-enfants d'Abraham. On va lire un texte, mais d'abord, on va prier encore. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, ta parole est notre nourriture. Et dans tout ça, notre but, c'est surtout de connecter avec toi et de vivre ce qu'on a chanté tantôt, que tu deviennes tout pour nous, parce que tu es tout. Tu es notre Créateur, tu es notre Sauveur, tu es celui qui veut vivre, marcher dans l'intimité avec nous et nous avec toi. Alors, par cette parole, change-nous. Instruis-nous, on prie au nom de Jésus. Amen. Donc, Genèse 25, voici l'histoire. C'est peut-être un peu difficile à voir pour ceux qui sont au fond, mais alors écoutez-moi ou bien ouvrez votre Bible, Genèse chapitre 25, à partir du verset 19. C'est pas difficile à trouver, c'est au début de la Bible. C'est le premier livre, Genèse 25, à partir du verset 19. Alors, voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Et Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram. Elle était aussi la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit, « Si telle est la situation, pourquoi est-ce que je suis enceinte? » Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, « Il y a deux nations dans ton ventre et deux peuples issus de toi qui vont se séparer. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. » Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü, et ça, ça veut dire poilu en hébreu. On l'appelait poilu, OK? Ésaü. Ensuite, sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob, qui veut dire, plus grosso modo, « talon ». Il talonnait son frère, il tenait son talon. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devient un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, donc le père aimait bien Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à son frère Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. C'est un autre nom qui veut dire roux. Poilu, roux. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Écoute, je vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? » Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Dans cette histoire, on voit des choses qui sont... Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est une histoire célèbre. Les chrétiens puis les juifs aussi méditent sur cette histoire depuis bien des siècles. Et il y a deux références, explications dans le Nouveau Testament. Alors, écoutez-moi, je vais vous lire deux explications que les apôtres ou la génération des apôtres nous donne par rapport à comment comprendre ce qu'on vient de lire. Romains 9, 8 à 16, c'est Paul qui dit ceci. Il dit, en fait, avec Dieu, ce n'est pas les descendants simplement biologiques qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. Tel a été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. Donc, c'est comme il y a un choix préalable de Dieu ici, sans dépendre des œuvres, mais ça dépend, comme dit le texte, de celui qui appelle. Je continue la lecture. Que dirons-nous donc? Dieu est-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ainsi, cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Wow! Et il y a un autre texte dans le Nouveau Testament qui parle du même passage, Hébreux 12, 15 à 16. Ça, c'est plus comment l'appliquer dans nos vies. Et l'auteur dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume produisant des rejetons et une cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Veillez aussi à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais il a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. La leçon d'aujourd'hui, il y en aurait peut-être plusieurs, mais celle qui va attirer notre attention maintenant, c'est qu'aucun être humain ne peut empêcher le plan de restauration de Dieu. Il peut seulement s'y joindre en acceptant son invitation et en apprenant à vivre par la foi. Alors, aucun être humain ne peut empêcher le plan de restauration de Dieu. Autrement dit, Dieu a décidé de le faire, il va le faire. Les êtres humains ne peuvent pas l'arrêter, mais un être humain peut s'y joindre en acceptant l'invitation de Dieu et en apprenant à vivre avec Dieu, à vivre dans la foi. Ce matin, le texte nous donne un genre d'avertissement. Il y a des erreurs dont je voudrais vous parler, des erreurs à ne pas commettre. Et certaines des erreurs, c'est comment ce texte a été mal compris ou peut être mal compris. Premièrement, mauvaise manière de comprendre Jacob, le petit frère qui est très présent dans cette histoire. On peut mal comprendre son rôle ici. Mais on peut aussi mal comprendre Dieu. Et puis, troisièmement, on voit dans le texte, oui, Ésaü fait une grosse erreur et il faut apprendre de cette erreur. Elle est là pour nous enseigner. Alors, on va commencer avec une erreur dans comment on peut mal comprendre ce texte. C'est de penser que Jacob, c'est comme un modèle. Et s'il a été choisi, c'est parce que ce qu'il fait, c'est bien ou que Dieu l'a récompensé. En fait, non. Jacob n'a pas mérité du tout d'avoir été choisi pour le plan de restauration, pour être le patriarche, à l'exclusion de son grand frère. Le comportement de Jacob est croche. Il trompe son frère. Il est méchant envers lui pour lui voler quelque chose qui lui revenait. Et nulle part, le texte ne dit que Dieu approuve qu'est-ce que Jacob fait. Et ça, c'est important. Quand on lit l'Ancien Testament, de se poser la question, est-ce que le texte est en train de décrire qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que Dieu approuve? Normalement, quand Dieu approuve, c'est marqué. Des fois, c'est marqué que Dieu approuve ou désapprouve. Des fois, il n'y a rien qui est marqué, puis c'est à nous de juger. Jacob trompe son frère, profite de sa faiblesse, lui vole son droit d'aînesse, ou tout au moins pense qu'il vole son droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse? Bien, dans cette culture-là, le fils aîné de la famille héritait des privilèges du papa, de son statut. Il pouvait même devenir, à la mort du père, le chef de famille et même le chef de tribu. Et il héritait donc d'une portion plus grande de l'héritage, c'est-à-dire des biens paternels. Alors, vous me direz, c'est injuste, mais c'est comme ça que ça marchait. Et on s'accommodait de ça. Puis on peut comprendre que le petit frère veuille usurper ça à son grand frère. Mais Dieu ne l'approuve pas. Deuxièmement, Rebecca, qui est un personnage vraiment très aimable, quand on la découvre dans l'histoire du mariage, on se dit « Wow! » Ah, c'est donc une femme, une jeune femme vertueuse. Et là, quand le texte dit, elle préférait Jacob. Ça non plus, Dieu, c'est pas marqué que Dieu approuve ce favoritisme. Alors, moi, je vous dirais, le favoritisme dans les familles par les parents, c'est jamais bon. Et Dieu ne l'approuve pas ici, mais je dirais, la psychologie nous apprend que c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais quand un parent a un favori parmi ses enfants. Ça cause des dégâts dans la famille, ça cause des conflits, et puis ça cause des dommages dans la psychologie des enfants. Alors, donc il faut travailler en tant que parent pour être égal dans notre amour avec nos enfants. Moi, je suis parent, et puis c'est possible que je me dis, mais il y a telle qualité que j'aime bien dans un enfant X. Par contre, il y a telle autre qualité que j'ai un faible pour cette qualité-là dans l'enfant Y. Puis il y a tel défaut dans l'enfant Z qui me dérange vraiment beaucoup. Mais cela dit, tu gardes ça pour toi. Et tu traites tes enfants avec un amour égal. Ça, c'est pas dans le texte. Ça, c'est plus qu'il ne faut pas déraper puis penser, « Oh, Rebecca l'a fait, donc moi, je vais le faire aussi. » Non. Très mauvaise idée. C'est une famille très dysfonctionnelle que Dieu choisit pour commencer son plan de restauration. Ils font plein de choses mauvaises. Mais ça va avec notre thème d'aujourd'hui. C'est malgré le comportement de Jacob que le plan de Dieu continue à se réaliser. Le choix préalable de Jacob comme fils de la promesse, Dieu, il va maintenir son choix. Et on va voir que plus tard, Dieu va venir le toucher. Et Jacob va avoir des moments de repentance, des moments où il va ouvrir son cœur à Dieu. À un moment donné, il va dire, « Avant, l'Éternel, c'était le Dieu de mes parents, mais aujourd'hui, il devient mon Dieu. Là, je comprends. Et là, je vais marcher avec lui. » Et son attitude commence à changer. C'est la même chose dans nos vies en tant que chrétiens et chrétiennes. Nous aussi, Dieu nous a choisis. Il nous a sauvés, on peut dire d'avance, même avant qu'on se tourne vers lui. Dieu a un plan. Dieu travaille. Il nous laisse faire beaucoup d'erreurs jusqu'au moment où on est prêt et qu'il nous attire à lui. Et même après, il supporte nos erreurs, nos fautes. Il les pardonne pendant que nous apprenons à vivre par la foi. C'est un apprentissage, ça prend du temps. Heureusement que c'est l'initiative d'amour de Dieu, d'abord. Ça nous amène à notre deuxième point. Mauvaise manière de voir Dieu. Ésaü, il fait des mauvais choix, mais ce n'est pas pour ça que Dieu le rejette, parce qu'on voit que son petit frère fait des mauvais choix aussi. On rentre dans des choses profondes qui sont difficiles ici. Ésaü, il est croche comme son petit frère. Et bien qu'on voit une bienveillance de Dieu dans sa vie, Dieu lui donne beaucoup d'atouts, mais c'est vrai que quand on lit l'histoire, on ne voit pas dans la vie d'Ésaü ce même coup de pouce qu'il va donner à Jacob. Jacob, on dirait que Dieu travaille dessus pour que finalement l'endurcissement de son cœur se ramollit et le cœur finalement de Jacob s'ouvre. Et Jacob commence à vivre par la foi. Nous aussi, on a besoin de cette aide spéciale de Dieu pour briser notre cœur, l'ouvrir, pour qu'on se repente vraiment. C'est une grâce de Dieu. Les personnes qui ne se repentent pas, c'est vrai qu'elles demeurent responsables de leur incrédulité et du mal qu'elles font. Mais il y a un mystère. Il y a quelque chose qui nous fait souffrir. Dieu fait quelque chose. Et c'est pour ça que nous prions en tant qu'Église missionnaire. Seigneur, dans ta miséricorde, toi qui aimes tous les hommes, donne-leur le coup de pouce. Donne-leur le vent de grâce, comme celui que moi j'ai reçu. Envoie-leur cela, comme tu as fait dans la vie de Jacob, comme tu as fait dans ma vie. Alors, est-ce que c'est arrivé dans la vie d'Ésaü? Je ne sais pas. Mais on voit en tout cas dans ce texte que bien qu'il ait reçu beaucoup de grâce de Dieu, un talent de chasseur, un physique sportif, une belle chevelure rousse, il est poilu de manière virile et il est très fier de la couleur de ses poils et de ses cheveux, apparemment. Il est l'aîné, donc il va, normalement, il devrait recevoir l'héritage double. Et dans cet épisode, c'est comme si Dieu lui tendait la main. Ésaü, là, t'as comme une épreuve. Mais montre-moi, c'est Dieu qui parle, montre-moi que tu valorises ce cadeau que je te donne de l'héritage. Malheureusement, Ésaü ne le voit pas. Et il fait une gaffe ici. Il exprime un mépris de Dieu et de ses dons. Donc, on en arrive à, justement, à l'erreur d'Ésaü. Son aveuglement face à la valeur spirituelle de ce qui se passe ici et de quel est son vrai trésor. Donc, je résume rapidement. Je vois quatre choses où Ésaü prend la mauvaise direction ici. Et c'est vrai qu'il était fatigué et il a faim. Et souvent, quand on est fatigué et qu'on a faim, on fait nos défauts ressortent. Et je crois que c'est important de manger, de se reposer et puis aussi de gérer notre colère pour ne pas être dans ces situations où on peut être pris par quelqu'un qui veut nous tromper. Mais quelle est l'erreur d'Ésaü ici? Bien, moi j'ai l'impression que la manière qu'il est décrit ici, il est beaucoup dans le faire plus que dans le recevoir. C'est quelqu'un de très actif, et ça c'est bien, mais la manière qu'il est décrit est toujours en mouvement. Il est tout le temps en train de chasser. Il est dans la dynamique d'agir, d'aller. Et le fait que ça plaît à son père, eh bien, ça le motive. Et il s'imagine peut-être que de s'efforcer de plaire à son papa terrestre, c'est de plaire à Dieu. Donc, ça déjà, c'est une piste d'erreur, d'être toujours dans le faire et pas assez dans le recevoir de Dieu. Deuxièmement, il semble aussi, là je lis entre les lignes de l'histoire, il aime son apparence. Il aime... Oh, mon timer me dit que j'ai déjà parlé 25 minutes. Alors, je vais prendre note de ça. OK. Il aime ses cheveux roux. Alors, quand il voit la soupe qui a la même couleur que ses cheveux, c'est comme... La manière qu'il en parle, c'est comme... Je veux manger ça! C'est ma couleur! Il est peut-être trop attaché à son apparence, certainement pas au statut d'enfant de Dieu, d'homme choisi de Dieu, que Dieu voudrait lui donner. Troisièmement, la satisfaction dans le moment présent. On dit que le peuple québécois a une belle qualité, c'est que c'est un peuple qui aime profiter du moment présent. Puis c'est vrai que c'est une qualité. Comprenez-moi bien, il n'y a rien de mal à dire « il y a un bon repas devant moi, je suis avec des bons amis, je vais vraiment en faire un moment où je vais être présent et en profiter au maximum et savourer l'expérience. » C'est une belle qualité de notre culture et il faut apprendre de cette qualité. Mais ici, je pense qu'il y a un problème avec Ésaü. C'est le moment présent comme un absolu, en oubliant le futur et surtout en oubliant Dieu. Le moment présent pour un chrétien, quand on oublie d'inviter Dieu à venir dans mon moment présent pour être là avec moi, eh bien, ça peut devenir vraiment un désastre. On peut dire, mais j'ai l'occasion de profiter de quelque chose, bien, c'est devant moi, je vais le faire. Voilà, Ésaü n'a pas vu, n'a pas écouté Dieu, n'a pas invité Dieu pour lui dire, attention, attention, ton frère est en train de te proposer quelque chose de désastreux pour toi. Il aurait dû tenir son bout avec Jacob, refuser le deal. Peut-être que Jacob lui aurait quand même donné à manger, peut-être pas. Ésaü est trop dans la satisfaction absolue dans le moment présent. C'est une leçon pour nous aussi, les chrétiens. Et finalement, une autre erreur qu'hélas nous avons tous commis et des fois, ça cause des dommages irrévocables. C'est quand tu te dis, j'ai confiance en mes propres capacités. Donc, je vais prendre un risque avec mon avenir. Je peux vous donner un exemple très concret. Je vais dans une fête, je vais prendre le troisième verre de vin ou le quatrième, mais je vais compenser par mes propres habiletés personnelles en conduisant après, ou ça peut être autre chose. On a vu avec Jean-Christophe Bisslard il n'y a pas longtemps, l'amour qui rend aveugle. Bien, je vais m'engager dans une relation amoureuse qui me semble pas recommandée par Dieu lui-même, mais je vais pouvoir réparer par après. Et des fois, on ne peut pas réparer. On a trop confiance en nos propres capacités. Et je vois Ésaü un peu comme ça. Il avait tout pour lui. Son père le trouvait merveilleux. Il était sportif. Il était poilu et roux. Et c'était l'aîné. Je vais pouvoir me débrouiller. Ça, c'est une erreur. Il ne faut pas vivre comme ça en tant qu'enfant de Dieu. On verra plus tard, l'erreur n'a pas pu être récupérée. Alors, pour terminer, donc, mauvaise manière de voir Jacob, ce n'est pas à cause des œuvres que Dieu nous inclut dans son plan. Mauvaise manière de voir Dieu, personne n'est exclu à cause de ses œuvres. Mais il y a cette réalité difficile. Dieu fait des choix et intervient gracieusement. Et si je suis ici ce matin, c'est un peu comme Jacob, par la grâce de Dieu. Oui, J'ai répondu oui. Et tout le monde est invité à répondre oui. Mais nous prions pour ce coup de pouce pour ceux qui ne l'ont pas reçu encore. Et ne commettons pas les erreurs d'Ésaü. Donc, on a vu une liste d'erreurs. Et je pense que ce matin, bon, le temps avance et j'aimerais qu'on puisse réfléchir. Aucun être humain ne peut empêcher le plan de restauration de Dieu. Il peut seulement s'y joindre en acceptant son invitation et en apprenant à vivre par la foi. Et peut-être que le problème d'Ésaü, c'est le problème de beaucoup d'entre nous. Nous qui sommes chrétiens, chrétiennes, c'est qu'on ne prend pas le temps de profiter de cet amour de Dieu, de nous nourrir, laisser nourrir par cet amour de Dieu, de se laisser aimer par Dieu. On parlait de la fête nationale québécoise et il y a cette chanson que j'aime tellement, « C'est à ton tour de te laisser parler d'amour ». Et ça s'applique aux chrétiens, bien, à tout être humain finalement. Rencontrer Christ, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mais une fois que tu es chrétien, est-ce que tu prends le temps de profiter que Dieu t'aime? Et prendre le temps dans la parole, ce n'est pas une punition que tu es obligé de lire la Bible. C'est un temps pour te laisser aimer par Dieu. Et la prière aussi. Et on apprend cela. Comment faire de nos temps de prière? Ça peut commencer par des moments courts, mais si on sent que c'est des moments où on se laisse aimer par Dieu, où on reçoit son amour, où il devient notre trésor, comme on a chanté tantôt, bien, on va vouloir prier plus. Du temps de repos, où on arrête de travailler, on arrête d'aller chasser pour plaire aux autres. Et on prend plus de temps pour se redécouvrir nous-mêmes et redécouvrir la bonté de Dieu. Puis j'ajoute, temps avec les enfants de Dieu. Parce que moi, je trouve que moi, je suis une personne qui, être avec vous, ça me rebooste. Je me sens aimé de Dieu quand je suis avec vous. Et ça peut être le dimanche matin, comme ça peut être à d'autres moments, dans d'autres instances. Donc, la question de réflexion, ce que je voulais dire, c'est qu'en nous nourrissant comme ça, bien, on est comme mieux équipé par après pour résister aux erreurs qu'on a vues aujourd'hui. Surtout les erreurs de Jacob de faire des compromis. Et peut-être d'endommager notre héritage. Alors, la question de réflexion, je termine là-dessus. Go. Non, il ne veut pas. Ah, non, attendez, je pense que je l'ai là. Oui. Dieu t'a choisi comme son bien-aimé. Ton salut est décidé d'avance par lui, dépend totalement de lui. Cela ne dépend pas de ta performance. Dieu te demande juste d'avoir la foi. Il n'y a rien que tu peux faire pour qu'il t'aime plus. Il n'y a rien que tu peux faire pour qu'il t'aime moins. C'est Dieu lui-même qui te transforme. Aujourd'hui, repose-toi dans cette bonne nouvelle et remercie ton Dieu. Bon, c'est pas vraiment une question de réflexion, je l'avoue. Mais c'est un sujet de réflexion. Et je vous invite à prier avec moi maintenant. Prions. Père, en voyant le début de cette nouvelle saga avec Isaac et Rebecca et leurs deux fils, cette famille qui est comme croche, qui est dysfonctionnelle, bien que remplie de tes cadeaux, rempli de tes marques d'amour. Et tu es à l'œuvre. Tu es à l'œuvre pour faire d'eux une lumière dans le monde. C'est assez extraordinaire. Merci qu'on peut poursuivre cette histoire. Et je te prie pour chacun, chacune ce matin. Si il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas encore ouvert son cœur à l'évangile de l'amour de Dieu, eh bien, Seigneur, donne-lui de pouvoir t'ouvrir son cœur maintenant et dire, Jésus, viens faire ta demeure en moi. Viens faire ta demeure en moi. Si tu es chrétienne déjà, tu as déjà invité Christ, eh bien, Seigneur, eh bien, cette prière est pour toi maintenant. Père, apprends-moi à me laisser aimer par toi. Je sais que tu m'as déjà aimé, mais je veux me tremper dans ton amour aujourd'hui et cette semaine. Pour être forte, pour être fort devant les tentations de compromis. Pour marcher avec toi et être ton enfant, lumière dans le monde. Nous prions au nom de Christ. Amen.